Europe 1, il est 6h.
Réviser des notions, être sûr qu'on n'est pas complètement à côté de la plaque avant les vacances, je pense que c'est toujours bon à prendre.
Tous en classe, au moins en théorie, les élèves de la maternelle au collège sont censés retrouver leurs établissements aujourd'hui à 2 semaines des vacances. Un soulagement pour certains parents, même si tous les élèves ne rentreront pas. Le coronavirus frappe lourdement les EHPAD, des établissements qui vont devoir faire face cette semaine à une canicule. Anne Hidalgo donnée gagnante à Paris dimanche, second tour des municipales, sondage exclusif. Europe 1 BVA, la tribune que nous révélons, la maire sortante qui a une nouvelle fois montré sa fibre écolo hier à Paris, sortie à vélo aux côtés de son allié David Belliard.
Il y a une urgence. Cette urgence, ça s'appelle le dérèglement climatique et nous devons y répondre et de manière extrêmement forte et pratique. Et c'est ce que nous faisons ensemble aujourd'hui.
L'écologie, justement, les 150 citoyens de la Convention pour le climat ont remis hier leur proposition au gouvernement. Nous appellerons l'un de ses membres dans ce journal. Et puis, France-Espagne, circuler, frontière rouverte depuis hier. C'était escapade barcelonaise pour certains Français.
Oui, ça s'est fait à la dernière minute, oui. Ça fait toujours du bien de partir. On a loué une petite maison avec piscine, on va profiter de la piscine et de la plage.
Les cinémas qui se déconfine juste après ce journal, vous prendrez place dans la plus vieille salle de cinéma au monde. C'est en France. 6h25, le meilleur et le pire des réseaux sociaux avec Paul Lassen, la fin des travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Très bon réveil à toutes et à tous. Il est 6h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Jérôme Lacroix.
Le réveil a peut-être déjà sonné, et beaucoup plus tôt que ces 3 derniers mois. 10 millions d'écoliers du primaire et des collégiens appelés à retrouver aujourd'hui leurs établissements. Certains n'y sont pas revenus depuis mi-mars, un retour 2 semaines avant les vacances. Obligatoire, avait dit Emmanuel Macron, avec protocole sanitaire très allégé. Tous les élèves ne seront pas là, environ 25% d'absents déjà partis en vacances ou parce que les parents s'inquiètent du coronavirus.
Pour d'autres parents, au contraire, c'est un soulagement. Après des mois d'école à la maison, couplé au télétravail, comment les familles se sont préparées ? Pour Europe 1, Marion Calais a rencontré Fanny, une maman célibataire, et ses 2 enfants de 4 et 9 ans.
C'est bon, ça va, c'est pour 2 semaines.
Allez, 15 jours à temps plein, ce devrait être supportable pour Adélie, scolarisée en CM1, qui appréhende quand même un peu le réveil quotidien.
Se lever tôt le matin, ça donne pas envie. Moi, j'aurais préféré me réveiller à 11h et y aller à 12h.
Pas d'appréhension, en revanche, du côté de sa maman, pour Fanny, ça va ?
Très bien, c'est une libération.
Pour cette maman solo de 2 enfants, cette reprise, c'est d'abord un quotidien simplifié.
Jusqu'à présent, chaque semaine était différente. Il fallait toujours être sur le qui-vive, prêt à changer tous nos plans. Comme ils avaient repris l'école à mi-temps, j'étais obligée de prendre 2 à 3 jours de congé par semaine.
Fanny qui voit aussi des vertus pédagogiques à ce retour en classe.
Réviser des notions, être sûr qu'on n'est pas complètement à côté de la plaque avant les vacances, je pense que c'est toujours bon à prendre.
2 semaines qui vont aussi servir à organiser les vacances, avec toujours des incertitudes, notamment sur l'accueil dans les centres de loisirs.
Et sur le front de l'épidémie plus, 7 décès ces dernières 24 heures. Les données des EHPAD seront mises à jour demain. En réanimation, 715 cas graves, chiffre stable. Près de 74 400 personnes guéries depuis le 1er mars.
Inquiétude en revanche en Guyane, autour de Cayenne notamment, où la situation reste préoccupante. L'hypothèse d'un reconfinement est même sur la table si la situation ne s'améliore pas, annonce Matignon. Des soignants de la réserve sanitaire sont envoyés dans le département voisin du Brésil.
Le Brésil où cette nuit le cap des 50 000 morts a été franchi.
Europe 1, il est 6h03.
Pic de chaleur attendu, toute la France touchée cette semaine.
Plus de 30 degrés. En moyenne, oui, il va faire chaud. 35 localement, avertit Météo France. Un épisode auquel on se prépare dans les EHPAD, où déjà le coronavirus a frappé fort, évidemment. Plus de 19 000 décès, selon Santé publique France.
Après cela, comment affronter la canicule cette semaine ? Les directeurs ont reçu des instructions du ministère de la Santé. Caroline Baudry.
C'est la consigne qui effraie Pascal Chanvert, président de l'association des directeurs au service des personnes âgées et à la tête de 5 EHPAD. Seuls les résidents non contaminés et sans symptômes auront accès aux salles climatisées. Difficulté supplémentaire, garder 4 mètres carrés par résident dans la salle rafraîchie.
Donc il y a des pièces climatisées qui vont se trouver trop petites par rapport au nombre de résidents qui pourraient y séjourner. Et donc la question majeure qui se pose, c'est quand aurons-nous suffisamment de personnel pour accompagner correctement les personnes âgées, pour qu'elles ne décèdent pas par milliers quand il y a la canicule ou quand il y a la grippe hiver ou quand il y a le Covid.
Les résidents potentiellement contaminés devront rester eux seuls dans leur chambre, porte fermée, peut-on lire dans les dernières consignes du ministère de la Santé. Problème, en l'absence de climatisation, un ventilateur ne peut être utilisé que si le résident est capable de l'éteindre par lui-même. Conséquence, toutes les personnes diminuées ou atteintes d'Alzheimer seraient alors privées de moyens de se rafraîchir.
Le boulevard d'Anne Hidalgo à Paris, enseignement notamment du sondage exclusif Europe 1 BVA, la tribune que nous révélons ce matin sur le second tour du scrutin municipal, c'est dimanche. 45% d'intention de vote pour la maire socialiste sortante, 34% pour Rachida Dati, loin derrière Agnès Buzyn, 18%.
L'un des axes forts du programme d'Anne Hidalgo, c'est l'écologie et notamment une place prépondérante pour le vélo. Hier, elle s'est mise en selle au fil des rues de la capitale, aux côtés de son allié écolo David Béliard. Toujours aucun lien. Claudia Bertram a pédalé à leur côté.
Toujours super, le vélo.
Dernière ligne droite à vélo pour Anne Hidalgo. Masquée et casquée, elle martèle son projet écolo.
Certains voudraient nous faire repartir en arrière, voudraient faire croire que la ville devrait encore se construire autour de la voiture individuelle, thermique, polluante. Ce n'est pas ce modèle-là que nous voulons.
À ses côtés, son allié écologiste David Béliard, avec qui elle a fusionné ses listes en vue du second tour.
Il y a une urgence. Cette urgence, ça s'appelle le dérèglement climatique. Et nous devons y répondre et de manière extrêmement forte et pratique. Et c'est ce que nous faisons ensemble aujourd'hui.
C'est sous les fenêtres de la mairie du 5e arrondissement que le cortège de vélos fait une pause. Et ce n'est pas un hasard. La maire sortante LREM, Florence Berthoux, s'est alliée à Rachida Dati pour le second tour.
Nous sommes en conquête. Lorsque nous avons aménagé cette place pour supprimer les grands parking à voiture. Nous avons eu une opposition farouche de la maire du 5e arrondissement. D'ailleurs, je ne sais pas très bien pour qui elle roule exactement.
Nettement avantagée dans les sondages dans la course à la mairie de Paris, Anne Hidalgo rappelle que l'élection n'est pas jouée avant de se remettre en selle.
Et notez qu'à 6h40, dans 35 minutes seulement, nous serons avec Édouard Le Cerf, qui est directeur adjoint de l'Institut BVA, le second tour des municipales dans 6 jours pour 5000 communes de France. Les enjeux à Paris, bien sûr, mais pas seulement, avec Édouard Le Cerf tout à l'heure sur Europe 1.
L'écologie, justement, ce qui a animé les 150 citoyens de la Convention pour le climat née après la crise des Gilets jaunes. 9 mois de travail et 149 idées pour répondre à la crise climatique. Elles ont été votées hier. Elles ont aussi été transmises hier, ces idées, au gouvernement, notamment, en quelques exemples, la vitesse abaissée à 110 km/h sur autoroute, interdire les centres-villes aux véhicules très polluants en 2025 ou encore bannir les pesticides les plus polluants en 2035. Des propositions bientôt sous les yeux d'Emmanuel Macron. Reste à savoir maintenant ce qu'en fera le président.
Bonjour Grégoire Frati.
Bonjour.
Vous êtes l'un des 150 membres de cette Convention citoyenne pour le climat. Emmanuel Macron doit vous recevoir lundi prochain. Vous en attendez quoi de cette entrevue ? Vous avez bon espoir que vos propositions se concrétisent ?
Bah oui, on a bon espoir en fait. On a eu un mandat. Nous, le job de notre côté, il a été fait. On a produit 600 pages de propositions. Maintenant, au gouvernement de prendre ses responsabilités et de les transmettre à l'Assemblée nationale, au règlement, voire même peut-être au référendum, comme ça nous a été promis.
Alors justement, référendum, parmi ces 149 idées votées, hein, il y en avait 150 en tout, vous proposez que deux soient soumises à référendum, la création de la notion d'écocide, de crime contre l'environnement, et plus globalement que la lutte contre le réchauffement climatique soit inscrite dans la Constitution. Pourquoi ces deux choix d'idées soumises à référendum?
En fait, pour ce référendum, on s'est posé la question, quelles questions on devait poser aux Français? Et en fait, ces questions-là répondent à une trajectoire, à des valeurs que la République pourrait porter. Et une fois que cette direction serait donnée par les Français, le politique devrait ensuite lui prendre son courage et faire passer le reste des mesures. Mais les Français, il est important qu'ils se prononcent pour savoir à quel niveau on met l'écologie.
Merci beaucoup Grégoire Frati, merci d'avoir été
merci
ce matin en direct l'invité du journal de 6h d'Europe 1, l'un des 150 citoyens tirés au sort, membres de cette convention citoyenne sur le climat.
Europe 1.
Dans un tout petit instant, la suite du journal. Qui est le suspect de l'attaque au couteau samedi soir près de Londres?
Attaque considérée comme terroriste par les enquêteurs britanniques.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, il est 6h10, la suite du journal. Jérôme Lacroix, Mathieu Béliard.
Et on en sait plus ce matin sur l'homme suspecté d'avoir poignardé plusieurs personnes samedi soir dans un parc à l'ouest de Londres.
À Reading, à 60 km de la capitale, 3 morts, 3 blessés graves. La piste terroriste est privilégiée, Elodie Goulesque. Un homme a été arrêté, il s'agit d'un réfugié libyen.
Oui, la police confirme qu'il s'agit d'un jeune homme de 25 ans, réfugié libyen. Khairi Sadala, c'est son nom selon les médias britanniques. Il avait été repéré dès 2019 par le MI5 après que les services secrets avaient reçu des informations indiquant que le suspect souhaitait aller à l'étranger, potentiellement pour des implications terroristes. Mais dans la première phase de l'enquête, les policiers estimaient que Khairi Sadala ne représentait pas une menace immédiate à l'époque, ce qui semble poser question pour le Premier ministre Boris Johnson.
If there are lessons that we need...
S'il y a des leçons à retenir de la façon dont nous gérons les événements qui engendrent ce genre d'incident, nous les apprendrons et nous n'hésiterons pas à passer à l'action si nécessaire.
Le gouvernement pourrait apporter des changements sur la loi antiterroriste. Il s'agit de la troisième attaque de ce genre au Royaume-Uni depuis le début de l'année.
Élodie Goulesque, correspondante d'Europe 1 en Angleterre. L'Espagne attend de son côté le retour des touristes et notamment nous, les Français. Réouverture hier de la frontière entre les deux pays.
À Barcelone, des avions venus de France ont atterri pour la première fois depuis 3 mois. Des Français ravis, accueillis à l'aéroport par Henri de Laguérie.
Enfin déconfiné, enfin l'Espagne ouvre ses portes.
Thierry et sa femme attendaient ce moment depuis plus de 3 mois, reprendre l'avion et retrouver le pied-à-terre qu'il possède à Barcelone.
On n'y croyait plus, parce qu'au départ c'était pour le 1er juillet, et là, le 21, on a pris l'avion.
À l'arrivée, le couple de Parisiens a passé un rapide contrôle de température et a rempli une fiche sanitaire. Leur avion était à moitié vide et dans l'aéroport, les passagers ne se bousculent pas. Hier, une quinzaine de vols internationaux seulement ont été programmés. C'est 10 fois moins que d'habitude. Masqué comme tous ceux qui sortent de l'avion, Aïssa, lui, est venu passer quelques jours de vacances avec des amis.
Oui, ça s'est fait à la dernière minute. Oui. Ça fait toujours du bien de partir. On a loué une petite maison avec piscine. On va profiter de la piscine et de la plage.
Pas d'inquiétude particulière à l'idée de venir ici ?
On était à Paris en Seine-Saint-Denis. On était aussi dans un secteur où il y a eu un gros pic, donc que ça soit là-bas ou ici, c'est pareil pour moi.
Et à Barcelone, ville touristique, s'il en est, on ne s'attend pas à un retour rapide des vacanciers. Entre 10 et 15% seulement des hôtels de la capitale catalane ont prévu d'ouvrir leurs portes au mois de juillet. Barcelone, Henri de Laguérie, Europe 1.
Et puis la musique leur a fait parfois oublier la distanciation, les gestes barrières. Des milliers de personnes un peu partout en France se sont rassemblées hier pour la fête de la musique malgré les restrictions sanitaires. Du côté du canal Saint-Martin à Paris notamment. Et puis pour d'autres, c'était séance de cinéma nocturne. Les salles rouvrent aujourd'hui. La première séance était organisée dès minuit 1. C'est électro là.
Oui, mais du coup, moi je suis resté à la maison, hein. Distanciation sociale et matinale.
Oui, c'est vrai qu'oblige.
Et documenter. Certains ont mal dormi, hein. Moi je ne dénonce pas, mais dans la rédaction, je peux vous dire que certains ont mal dormi. Les Parisiens notamment, vers le 10e arrondissement notamment. C'était la fête de la musique hier où il était qui a démarré ce week-end. Merci Jérôme Lacroix, c'était le journal de 6h et effectivement, on va reparler de cinéma. Voilà pour Julien Pierce, Jean Mineur. Et oui, mais on va réentendre ça dans les salles de cinéma. Alors maintenant, il y a une version un peu modernisée, mais on va découvrir ça dans les salles. Petit parfum de pop-corn, on rouvre les cinémas. Et tiens, dans un instant, on vous emmène dans la plus vieille salle de cinéma au monde. C'est à La Ciotat. Oui, c'est en France, messieurs, dames. 6h14, à tout de suite.
Europe 1, il est 6h16, c'est l'heure de l'invité inattendu tous les matins. Un sujet de l'actualité et une voix que l'on n'attend pas pour en parler. Et ce matin au programme, la réouverture des salles de cinéma.
Après trois mois sans spectateurs, on éteint la lumière, on enfonce les mains dans le pop-corn. Les cinémas autorisés à rouvrir à partir d'aujourd'hui. Le réalisateur Olivier Nakache est mon invité à 7h40. Et à partir de 8h30, vous intervenez au 3921 sur le hashtag Europe 1. Quelles sont vos envies? Quel sera le premier film que vous irez voir? Est-ce que ça vous a manqué, le Cinoche? Netflix, ça compense pas tout à fait non plus. Ce matin, quand on voit les images de foules rassemblées pour la fête de la musique, je pose aussi la question, est-ce qu'il faut s'inquiéter d'un relâchement en déconfinant la culture? À 8h30, nous serons avec le spécialiste cinéma européen, Mathieu Charrier. Vous prenez la parole au 3921 et sur le hashtag Europe 1.
Mais pour l'heure, nous vous faisons visiter la plus vieille salle de cinéma au monde, encore en activité, direction La Ciotat, à l'Eden Théâtre. Et votre invité inattendu, Mathieu Béliard, c'est la directrice de ce cinéma, Marie-Laure Smilovici.
Bonjour Marie-Laure Smilovici.
Bonjour Mathieu Béliard.
Alors, l'Eden Théâtre Cinéma, le plus vieux cinéma encore en activité dans le monde. Vous projetez des films, mais vous êtes aussi un morceau d'histoire ce matin.
Écoutez, alors aujourd'hui, on est un morceau d'histoire parce que selon les nouvelles préconisations sanitaires, nous pouvons ouvrir. Donc, c'est une journée un peu particulière pour l'Eden. Et sinon, l'Eden représente effectivement un grand moment d'histoire dans le patrimoine du cinéma et dans le patrimoine du territoire du sud de la France aussi.
Justement, parlons de patrimoine. 21 septembre 1895, que sait-on, que peut-on dire de la première séance de cinéma officielle?
Alors, Antoine Lumière, qui est le père d'Auguste et Louis Lumière, avait une très grande propriété à La Ciotat. Et les deux garçons qui étaient des inventeurs mettent au point cette invention qui a tellement révolutionné, je crois qu'on peut dire, la terre entière, qui est appelée alors le cinématographe. Et donc le 21 septembre, ils font une première séance dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Palais Lumière. Alors il y a plusieurs essais dans la suite qui sont des essais un peu infructueux. Et puis, il y a en 1899, la première séance, là dont on a conservé des traces, et dans le hall de l'Éden, il y a l'affiche de cette première séance payante qui réunit à ce moment-là, ce qui était quand même assez important, près de 250 spectateurs.
Les cinémas ne sont pas sortis de terre par génération spontanée. Pour vous, en tout cas, c'était un théâtre à l'origine, bien sûr. Vous avez accueilli des matchs de boxe aussi. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le lieu ? Est-ce qu'il a beaucoup changé depuis le début ?
Alors, l'Éden, si vous voulez, a été construit en 1889. Pour avoir un élément de comparaison facile, c'est la construction de la Tour Eiffel. L'Éden s'appelle l'Éden Théâtre et on lui a gardé son nom. Il y a des radio-crochets, il y a des matchs de boxe, il y a des meetings politiques. Donc, il y a toute une série d'activités qui sont assez variées. Alors, vous me disiez, est-ce qu'il a beaucoup changé par rapport à ce qu'il était à l'origine ? Non, il est redevenu exactement ce qu'il était à l'origine. Quand vous rentrez dans la salle de cinéma, on dirait un théâtre à l'italienne. Puisqu'il a été construit et conçu véritablement comme un théâtre, avec une façade qui est un peu ocre et l'intérieur qui a les rouges originels. Mais véritablement, l'Éden est tel qu'il était à l'ouverture.
À 7h40, ce matin, nous recevons le réalisateur Olivier Nakache. Ce matin, nous parlons de la réouverture des salles de cinéma aujourd'hui, je le redis, mais l'Éden a survécu à deux guerres mondiales, des crises économiques, du banditisme même. Pas de raison que le coronavirus vous empêche de repartir ce matin.
Hein. Non, écoutez, j'ai envie de vous dire que l'Éden est un peu, pour reprendre un titre de film, je vais vous dire, intouchable. La Première Guerre mondiale a peu affecté l'Éden. Il y a même eu, pendant le courant de la guerre, une naissance, puisque les propriétaires de l'Éden habitaient au premier étage de l'Éden. Mais en revanche, beaucoup plus d'inquiétude au moment de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'une mine allemande a explosé pendant la guerre, détruisant une partie de l'Éden. Et puis, comme vous y faisiez allusion, en 1982, le jeune Jérôme de l'Éden, tout jeune, il avait 25 ans, a été assassiné pour s'emparer de la caisse. Et je vous assure, de l'intérieur, on était absolument persuadés que l'Éden ne fermerait plus jamais. Et pourtant, le 15 mars, on avait une soirée événement, comme on en a deux ou trois par mois, et on a appris à 20h que l'Éden allait fermer. Donc vous imaginez que nous sommes, pour la réouverture de ce soir, sur les starting blocks depuis un moment.
Cela dit, hier matin sur Europe 1, le ministre Franck Riester a annoncé qu'il n'y aurait pas de demi-jauge, que vous ne seriez plus limité de la même manière à 50% de la jauge pour les salles de spectacle et cinéma. C'est un coup de boost à la veille de l'ouverture ?
Alors, c'est à la fois un coup de boost, parce que c'est vrai que c'est rassurant, parce que ça veut dire que les réunions et les séances vont être de plus en plus faciles. C'est en même temps, je vous dirais, une pression supplémentaire parce que ce qui a été annoncé, c'est assez difficile à évaluer tout de suite l'impact que ça va avoir. Ce qui est surtout intéressant, c'est pour les personnes qui vont venir, sans parler des couples, mais des couples qui viennent avec des enfants ou des amis qui viennent à 3 ou 4 au cinéma et qui vont de fait se mettre à côté. C'est vrai que là, ça permet de faire monter la fréquentation de la salle.
La première séance à l'Éden, ce sera quoi ?
La première séance, c'est un film qui est en sortie nationale aujourd'hui, qui s'appelle Being Natural, la vie cachée d'Alice Guy Blache. Alors c'est quand même un véritable clin d'œil à ce que l'Éden représente dans le patrimoine du cinéma, puisque Alice Guy était la première femme réalisatrice et scénariste. Elle a fait à peu près 150 films. Et nous, à l'Éden, ça faisait longtemps qu'on avait décidé de lui faire toute sa place dans le plus ancien cinéma du monde. Donc le plus ancien cinéma du monde qui accueille la plus ancienne réalisatrice du monde. Je trouve que pour la séance de 18h, c'est un joli clin d'œil. Et je pense que nous aurons un certain nombre de personnes.
Eh bien, bonne réouverture à vous, Marie-Laure Smilovici, directrice à l'EDN Théâtre de La Ciotat. Merci beaucoup.
Merci, au revoir, à bientôt.
Europe 1. Le meilleur et le pire des réseaux sociaux à suivre avec Paul Lassen, qui a compilé les réactions des internautes après l'annonce des mesures proposées lors de la Convention citoyenne pour le climat. Tout de suite. Il est 6h26, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Et tous les jours, à cette heure-ci, le meilleur et le pire des réseaux sociaux avec Paul Lassen. Bonjour Paul.
Bonjour Mathieu.
Et on vous en parle ce matin sur Europe 1. La Convention citoyenne pour le climat a rendu ses avis hier à l'exécutif. Et sur les mesures annoncées, certaines ont beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux.
Au début du week-end, on apprenait que les 150 citoyens sélectionnés avaient refusé de soumettre au vote des Français certaines propositions à cause de leur, je cite, « manque d'informations par rapport à eux ». Une justification scandaleuse, juge Paul sur Twitter. Pour un autre internaute, ce refus n'est pas si absurde. Si le délai de réflexion avant référendum est court, je suis d'accord avec eux, il faudrait au minimum 3 mois de débat sur toutes les questions. Même une des membres de la Convention, Amel, s'offusque de ce manque de confiance. Il va peut-être falloir faire confiance au peuple français. Il faut qu'on sache tenter notre chance. Un appel apprécié sur les réseaux sociaux est visiblement entendu par ses collègues, puisqu'hier après-midi, les membres de la commission sont tombés d'accord pour proposer un référendum sur la Constitution et sur le crime d'écocide.
Des mesures appréciées globalement d'ailleurs par les internautes.
Surtout cette notion d'écocide, de crime contre l'écologie, une excellente idée pour cet internaute. Ce serait une bonne avancée car beaucoup de particuliers pourraient attaquer les entreprises polluantes et l'État, même si certains redoutent des effets d'annonce comme Kampuchea sur Twitter. Les fabricants d'appareils électroménagers pourront-ils être considérés comme des criminels en raison de l'obsolescence programmée de leur matériel ? Ou c'est juste pour préparer les particuliers à une nouvelle taxe et renflouer le gouvernement ?
C'est d'ailleurs l'une des remarques les plus souvent faites par les internautes, Paul, la question de l'impartialité de cette convention citoyenne.
Oui, les premières réactions des internautes ont commencé après l'annonce du refus de passer à 28 heures de travail par semaine au lieu de 35 aujourd'hui. Cet internaute, par exemple, pointe une certaine schizophrénie. Il propose quelque chose qui permettrait de créer une nouvelle société et il s'auto-censure « Vive la liberté ». Pour Anesque, c'est plus clair, les 150 citoyens sont clairement manipulés par l'exécutif. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont ridicules, seulement l'alibi de Macron sur l'écologie. Mais malgré des réticences, il faut reconnaître que sur les réseaux sociaux, on salue chaleureusement cette convention citoyenne. Ça prouve qu'on débat intelligemment sans tomber dans le spectacle affligeant offert par nos hommes politiques, écrit Julien. Des bonnes idées, mais il ne faut pas qu'elles tombent dans l'oubli. C'est un bon départ. Mais il faudrait qu'elle soit renouvelable chaque année, avec une moitié qui assure le suivi des mesures prises l'année précédente, conclut un internaute.
Manque d'originalité et de courage, cette convention, nous dira Nicolas Bétou. L'opinion de Nicolas Bétou à 7h55 tout à l'heure, d'écologie et d'écologie politique. Il sera question également à 6h40 avec mon invité Édouard Lecerf de l'Institut BVA pour cette dernière édition du sondage BVA, la ville de Paris aujourd'hui, à 6 jours du second tour des municipales. 6h29 sur Europe 1. Laurent Cabrol, pardon, merci Paul.
Merci Mathieu.
J'ai oublié, merci Paul, c'était très bien et à demain. 6h29, Laurent Cabrol avec nous pour la météo.
Oui, alors nous allons parler de brume, de brouillard, de nuages et de bruine. En fait, quelques-uns d'entre nous, ceux qui habitent le sud-ouest, le massif central et les régions de l'est, subissent actuellement les effets secondaires de cette perturbation qui a traversé la France sur la moitié nord hier. Donc ce n'est vraiment rien, ce sont les derniers soubresauts de cette zone de pluie qui ne donne plus rien maintenant. Et à midi, pratiquement, tout le monde sera logé à la même enseigne, c'est-à-dire à un ciel dégagé, le plus souvent dégagé, et surtout à des températures qui seront à la hausse, puisque nous atteindrons les 33 à Montpellier, 31 à Marseille, 27 à Bordeaux-Lyon, 26 à Paris et Strasbourg, 25 à Nantes, 24 à Nancy et 21 à Brest et 18 à Boulogne. Donc des températures raisonnables mais chaudes. Et nous allons passer maintenant à la vitesse supérieure à partir de demain. Et surtout mercredi, jeudi, vendredi seront des journées très 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 chaudes avec 34-35 degrés dans la journée.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. François Geffrier nous a rejoint en studio. Bonjour François.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 6h30.
Les salariés, quand ils sont bien informés, ils sont d'autant plus prêts à reprendre leur activité, confiants.
Il y a de la rentrée dans l'air chez les collégiens, les écoliers, mais aussi pour leurs parents, dont certains n'avaient pas travaillé depuis mi-mars. Eux ont presque fini leur tâche. Les 150 citoyens de la Convention pour le climat ont rendu leurs propositions ce week-end. Nous verrons dans quel état d'esprit Emmanuel Macron envisage la suite, notamment l'idée d'un référendum. Et puis, le PSG reprend l'entraînement ce matin, mais Cavani n'y sera pas. Question de droit et réponse de l'avocat d'Europe 1, Roland Pérez. Avec le Covid, jusqu'où votre employeur peut-il modifier vos congés d'été? 6h40, notre sondage BVA, la tribune Europe 1, Paris, à 6 jours du second tour. Édouard Le Cerf, directeur adjoint de BVA, dans moins de 10 minutes. Et puis nous vous emmenons en Algérie, au Japon et en Pologne, dans la revue de presse internationale avant 7h.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Depuis la fin du confinement, à peine un écolier sur quatre et un collégien sur cinq étaient retournés en classe. Aujourd'hui, à deux semaines des grandes vacances, ils sont censés être tous de retour dans leur établissement. Le protocole sanitaire a pour cela été allégé en milieu de semaine dernière.
Et de même que la fermeture des écoles avait contraint des milliers de parents à arrêter de travailler pour s'occuper de leurs enfants, la reprise généralisée des cours en classe donne le signal du retour en entreprise. Olivier Samin.
Pour ces salariés, c'est une période de 3 mois qui prend fin. 3 mois sans avoir mis les pieds dans l'entreprise, sans avoir fourni le moindre travail. Et tout d'un coup, la réimmersion parmi les collègues, le chef qui vous donne vos objectifs et la crainte que vous ressentez de ne plus être tout à fait dans le coup. Moment crucial, dit Lorraine de Calbiac, consultante chez Willis Towers Watson, qui conseille les entreprises sur leurs pratiques de management.
La majorité des entreprises, elles ont entretenu leur lien avec les salariés pendant l'éloignement. Et bien entendu, cela va conforter et rassurer le salarié avant sa reprise d'activité. Mais il est évident que celles qui ne l'ont pas fait ou qui n'ont pas pu le faire auront un travail de communication d'autant plus important pour rassurer sur les conditions de retour. Parce que les salariés, quand ils sont bien informés, ils sont d'autant plus prêts à reprendre leur activité confiants.
D'où l'importance d'un accompagnement des salariés dans les jours qui suivent leur retour. Lorraine de Calbiac prévient, négliger ça, c'est la meilleure façon de provoquer de la démotivation, donc une baisse de performance. Au moment où les entreprises relancent leur activité, il y a sûrement mieux à faire.
Les cinémas, les théâtres et les casinos rouvrent aussi à partir d'aujourd'hui. On va en parler à 7h40 avec le réalisateur Olivier Nakache. Et avec vous, à 8h30, vous pouvez déjà nous appeler au 3921, nous dire sur Twitter, sur le hashtag Europe 1, ce qui vous tente parmi les nouveaux films ou ceux qui étaient sortis avant le confinement. Quel sera, tiens, le premier film que vous irez voir en salle, 3921?
Ils ont rendez-vous avec le président de la République dans une semaine. Les 150 citoyens tirés au sort pour la Convention sur le climat ont rendu leur proposition ce week-end et suggèrent le recours au référendum pour deux d'entre elles. Que la lutte contre le réchauffement climatique soit inscrite dans la Constitution et qu'un crime d'écocide soit créé. Un écocide étant un dommage écologique grave. Jean-Rémy Baudeau, reste à voir ce que tranchera Emmanuel Macron.
Il avait promis des décisions fortes, de reprendre sans filtre les conclusions de la Convention citoyenne. À l'arrivée, 149 propositions et pour Emmanuel Macron, l'obligation de faire de ce rapport un objet politique. La méthode est en discussion. Le chef de l'État avait esquissé 3 solutions. Des règlements directement pris par le gouvernement, des lois après débats au Parlement ou un référendum. C'est cette dernière option qui plaît actuellement au sommet de l'État. Mais l'idée d'un QCM, parfois évoquée, fait débat. Elle permettrait certes de confronter les Français à différents choix, parfois complexes, de l'écologie, sans risquer un vote pour ou contre Macron. Mais les constitutionnalistes ne semblent pas tous d'accord sur la régularité d'un tel scrutin. Un QCM, ça n'est pas très gaullien, s'amuse un proche du président. Quoi qu'il en soit, Emmanuel Macron recevra lundi prochain les 150 participants. C'est là qu'il annoncera ses premières réponses, selon l'Élysée. Le chef de l'État sait que son bilan en matière d'écologie est souvent jugé trop faible. Lui qui a promis de se réinventer pourrait profiter de cette occasion pour prendre un virage écologique avant de remanier son gouvernement autour notamment de cet enjeu.
Europe 1, il est 6h34.
Ils ont été mobilisés et exposés lors du pic de l'épidémie. Les soignants libéraux avaient prêté main forte au centre Covid d'Île-de-France, répondant à leur appel en quelques heures.
Mais 2 à 3 mois plus tard, beaucoup n'ont toujours pas été payés. C'est ce que dénonce John Pint, vice-président du syndicat national des infirmiers et infirmières libéraux.
On voit bien qu'en Île-de-France, il y a eu énormément de centres Covid qui ont été mis en place. Ni les infirmiers, ni les médecins dans ces centres n'ont pour l'instant pas pu être rémunérés. Et la réponse qu'on a de l'ARS, c'est que ça va venir dans les jours prochains. Les infirmiers se retrouvent avec ce manque à gagner pour l'instant. Les charges continuent de tomber puisqu'on est profession libérale. Certains infirmiers ont eu une perte d'activité pendant toute la période de Covid et le confinement. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est de l'argent qui n'arrive pas, qui peut mettre en difficulté certains professionnels de santé, oui. Ça peut chiffrer sur plusieurs milliers d'euros, surtout s'il y a eu en plus des actes dans les EHPAD, où là, c'est vrai que c'est une grosse partie de l'activité qui, pour l'instant, est en attente de paiement ou qui est pour l'instant rejetée.
John Pint au micro européen de Nicolas Feldman.
Eux aussi retrouvent leurs petits camarades ce matin. Je ne parle pas de l'école, mais du centre d'entraînement du Paris Saint-Germain.
Oui, l'effectif parisien du foot à nouveau réuni au camp des loges à Saint-Germain-en-Laye. Il manquera toutefois Thiago Silva, mais aussi Cavani. Les précisions de Christophe Lamar.
Il ne viendra pas, Edinson Cavani ne franchira pas les grilles du parking qui jouxte le camp d'entraînement du Paris Saint-Germain. La reprise de l'entraînement tout à l'heure se fera sans lui, tout un symbole. L'idole du Parc des Princes et meilleur buteur de l'histoire du PSG ne serait même pas rentré en France. Selon son entourage, l'Uruguayen serait en train de négocier un nouveau contrat avec un autre club. L'une des pistes l'enverrait en Espagne à l'Atlético Madrid. En réalité, Cavani n'a pas supporté le non-renouvellement de son contrat avec le Paris Saint-Germain qui prend fin le 30 juin. Même s'il ne se faisait guère d'illusions, la brutalité de la rupture lui laisse un goût amer. Les propos du directeur sportif Leonardo à son encontre l'ont blessé. La semaine dernière, le Brésilien expliquait qu'il était arrivé en fin de cycle. Mais les dirigeants parisiens espéraient quand même trouver un arrangement pour le prolonger de 2 mois, c'est-à-dire jusqu'à cet été et le rendez-vous en Ligue des Champions. Cavani en a donc décidé autrement. Il ne reviendra pas, sauf pour vider son casier et dire au revoir à ses coéquipiers.
Le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, qu'on ne reverra donc plus au Parc des Princes.
Et vous êtes tout triste, Mathieu. Hier soir, en Liga espagnole, le Real Madrid a repris la tête du classement devant le FC Barcelone, grâce à une victoire à l'extérieur face à la Real Sociedad 2-1, mais son capitaine Sergio Ramos, buteur, est sorti après un violent choc au genou.
Merci beaucoup François Geffrier, c'était le journal de 6h30 sur Europe 1.
Une question de droit, la réponse de notre expert juridique, l'avocat d'Europe 1, Roland Pérez.
Bonjour Roland.
Bonjour Mathieu et bonjour à tous.
Peut-on connaître, mon cher Roland, exactement les règles applicables aux congés payés des salariés pour cet été ? Détaillez-nous le dispositif spécial pour cause de Covid qui a été mis en place.
Oui, des mesures dérogatoires ont été mises en place cet été permettant aux employeurs d'imposer aux salariés la période, la durée, voire même le droit de modifier et surtout de fractionner les dates de congés payés sans avoir à recueillir l'accord des salariés et d'imposer même, Mathieu, que ces congés soient pris hors de la période de congés habituels de l'entreprise. Autre droit, et qui peut s'avérer tout de même assez surprenant, celui de ne pas accorder forcément un congé simultané aux conjoints qui travaillent dans la même entreprise. Tous ces droits temporaires octroyés à l'employeur compte tenu de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques ne sont pas fondés sur le code du travail, les conventions collectives ou même les accords d'entreprise en vigueur. La seule condition posée par les ordonnances Covid pour autoriser ces droits exceptionnels aux employeurs, c'est qu'un nouvel accord d'entreprise ou un accord de branche soit tout de même pris. Et donc, une négociation collective doit avoir été entamée pour mettre en place cette palette de droits donnée à l'employeur. Et puis, le délai d'un mois habituellement requis pour imposer et modifier les congés payés n'est également plus de mise. 24 heures suffit. Dernier point à connaître, Mathieu, le maximum de jours de congés payés qui peuvent être imposés ou modifiés est 6 jours, donc à peu près une semaine.
Et Roland, ces textes dérogatoires à la règle des congés payés habituels, ils s'appliquent jusqu'à quand ?
Jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard, c'est ce que disent en tout cas les ordonnances en la matière.
Merci Roland Pérez. Votre question de droit tous les matins, juste après le journal de 6h30. La réponse de Roland Pérez, l'expert juridique Europe 1, 6h38.
Europe 1, la matinale d'Europe 1. Mathieu Béliard, la suite.
Les acteurs de l'actualité en direct sur Europe 1 le matin. Vous le savez, après 3 mois de fermeture complète, les salles de cinéma rouvrent leurs portes. Quel premier film irez-vous voir ? Est-ce que vous êtes pressé ? Est-ce que ça vous a manqué ? J'attends vos appels ce matin à 8h30. C'est vous qui aurez la parole avec le spécialiste ciné d'Europe 1, Mathieu Charrier. Inscrivez-vous déjà au 39-21. C'est aussi la reprise pour les professionnels. Et à 7h40, dans ce studio, je reçois le réalisateur Olivier Nakache. Tout de suite, à 6 jours du second tour des municipales sur Europe 1, le dernier sondage de notre série avec l'Institut BVA après Toulouse et Marseille la semaine dernière. Zoom sur Paris ce matin. À tout de suite.
Il est 6h41, les acteurs de l'actualité sont en direct sur Europe 1. Votre invité Mathieu Béliard, c'est le directeur général de l'Institut BVA, Édouard Le Cerf.
Notre partenaire, bonjour Édouard Le Cerf.
Bonjour.
Dernière édition donc de notre série de sondages avec vous, l'Institut BVA et la Tribune. Municipal, on est à 6 jours du second tour dans 5000 communes, dernière édition donc, Paris. Avec, nous le disions, Anne Hidalgo qui confirme, qui conforte son avance.
Oui, ses intentions de vote réalisées, il faut le rappeler, sur l'ensemble de Paris, par arrondissement, c'est un point important, donne malgré tout une image assez claire et assez nette de l'avantage d'Anne Hidalgo sur les autres listes. Elle obtiendrait sur l'ensemble de Paris 45% des intentions de vote, donc ça lui permet de dominer assez largement les 34% des listes soutenues par Rachida Dati. 18%, c'est le score des listes d'Agnès Buzyn, donc on va loin derrière. Aujourd'hui, il apparaît assez clairement que Anne Hidalgo confirme en quelque sorte sur la lancée de son premier tour plutôt réussi, confirme et même anticipe potentiellement, on va dire, une victoire sur Paris. Ça se passe comment? Ça se passe très simplement. Elle récupère quasiment l'ensemble de ses électeurs de premier tour. Elle récupère par ailleurs un certain nombre d'électeurs de premier tour qui avaient voté pour Cédric Villani. La moitié d'entre eux iraient sur sa liste. Elle récupère naturellement les trois quarts des électeurs de Mathieu Béliard et Colo.
Non, David. David Béliard, pas Mathieu.
Pardon,
toujours
mais voilà.
Pas. Toujours pas. J'attendais.
Ah oui, ben voilà.
C'était pour vous, Edouard.
Voilà. Merci beaucoup.
Aucun David... lien de parenté de famille avec David Béliard.
Voilà, je David Béliard, elle récupère donc les électeurs qui avaient voté Colo au premier tour. Donc on le voit bien, sa situation est relativement confortable. Il faut toujours dire relativement, parce qu'encore une fois, il y a un scrutin. Les électeurs ne se montrent pas extrêmement mobilisés pour aller voter, contrairement à ce qu'on a pu voir ensemble.
Oui, j'allais vous poser la question. Alors, il y a deux aspects aussi à prendre en compte dans les chiffres que vous donnez, Edouard Le Cerf. 90% de certitude pour les électeurs d'Anne Hidalgo, beaucoup moins, par exemple, pour une Agnès
Buzyn.
Oui,
c'est une autre faiblesse d'Agnès Buzyn.
La absolument. Participation, il y a un enjeu ou pas? J'ai vu dans le sondage qu'elle serait même plus basse que pour le
premier
tour.
Oui, d'un ou deux points, mais en tout cas, on serait vraiment dans les mêmes eaux qu'au premier tour. C'est-à-dire une participation très basse par rapport habituellement, il faut se souvenir. Alors, en 2014, au second tour, 58% de participation. Ici, on serait autour de 40%, à peu près dans les eaux du premier tour. On a noté dans d'autres enquêtes, dans d'autres intentions de vote réalisées avec vous d'ailleurs, que ce soit à Bordeaux ou à Toulouse, un sursaut de participation. Pas énorme, mais une dizaine de points. On partait très bas, une dizaine de points. Ici, pas de sursaut. Comme si, sans doute, les jeux dans la tête des Parisiens étaient aussi un peu faits.
Il y a moins d'enjeux, il y a moins de suspense.
Voilà, moins de suspense. Et on va dire, la crise du Covid n'a pas modifié fondamentalement les lignes. Ça, certainement pas.
Est-ce que Rachida Dati est freinée par Agnès Buzyn dans ce sondage? On voit que Rachida Dati réussit 34%, mais elle reste loin derrière Anne Hidalgo.
Oui, j'ai presque envie de retourner votre question. Au départ, il y a quelques mois, on se serait dit, est-ce que Agnès Buzyn va être freinée par Rachida Dati? Parce que c'est vrai que le ou la candidate LREM devait obtenir, naturellement, essayer de capitaliser sur le très bon score d'Emmanuel Macron
à la présidentielle à Paris, oui, bien sûr.
Paris apparaissait comme étant le symbole potentiel pour La République En Marche. Et on l'a bien vu avec cette campagne absolument dramatique, coup sur coup, pour La République En Marche. Rachida Dati a quand même réussi quelque chose. Elle a réussi à agréger une droite qui était un peu perdue au niveau national, mais aussi perdue sur Paris. Elle a réussi un peu à agréger quelque chose. On le voit d'ailleurs. On a quelques questions sur la crédibilité comparée des différentes candidates, on va dire. Et Rachida Dati s'en sort effectivement sur des questions assez traditionnelles de la droite, hein, sur l'insécurité, sur l'équilibre budgétaire, sur la crise migratoire. Elle ne s'en sort pas si mal. Elle est bien sûr dépassée par Anne Hidalgo sur des critères comme la crise sanitaire, la gestion de la crise économique ou de la fracture sociale.
Est-ce que les enjeux du vote ont évolué? Parce qu'on est dans une situation inédite, hein, où on a un premier tour à la mi-mars et un second tour à la fin du mois de juin. Est-ce que les électeurs vont se déplacer pour les mêmes motivations?
Forcément, cette parenthèse a un peu mis tout sous cloche et sous sommeil. C'est-à-dire que non, il n'y a pas eu un grand chambardement des éléments qui ont pu pousser les électeurs à voter au premier tour et qui seraient entraînés sur de nouveaux items, de nouvelles questions. Alors, malgré tout, aujourd'hui, lorsqu'on pose la question à l'ensemble des électeurs, à Paris comme ailleurs, quels sont les éléments qui sont marquants et qui vont structurer le vote? Bien sûr, la crise sanitaire est toujours là, mais surtout, c'est la crise économique et la crise sociale potentielle qui va en découler, qui sont les éléments sur lesquels ils considèrent qu'aujourd'hui, il faut regarder les électeurs. On va d'ailleurs avoir une forme d'opposition, pas seulement à Paris, mais dans d'autres villes, entre ceux qui vont penser que, naturellement, il est très important qu'on ait une économie qui redémarre, et là, mettront en avant tel ou tel candidat, et d'autres qui diront, c'est peut-être le moment de faire attention, de faire une pause, de regarder, on sort de la Convention citoyenne sur le climat, ça aussi, ça peut peser, sans doute.
Alors justement, cette Convention citoyenne pour le climat, nous le disions précédemment, Emmanuel Macron reçoit les 150 citoyens lundi, on ne peut pas s'empêcher de penser au fait qu'il aura... En sa possession, les résultats du second tour des municipales. On va surveiller les listes vertes dans tout le pays.
Absolument. C'est naturellement un des enjeux importants. Vous parliez de la capacité des enjeux du premier tour à toujours être présent au second. Le premier tour a marqué clairement, c'est le point le plus intéressant, en tout cas le plus marquant de ce premier tour, c'est le poids des écolos, leur capacité à pouvoir aujourd'hui constituer un pôle parfois central de l'offre de la gauche dans un certain nombre de communes. Et puis, naturellement, on se souvient, juste avant le premier tour, la thématique de l'environnement, la préoccupation environnementale, était l'élément qui écrasait tout. Aujourd'hui, il est toujours là. Il n'est peut-être pas prioritaire parce qu'il y a cette crise économique que les Français attendent et redoutent. Mais ça va être cet équilibre entre ces deux éléments-là. Bien sûr, les résultats municipaux, Emmanuel Macron les aura en tête et regardera ça de manière attentive lorsqu'il s'exprimera, lorsqu'il partagera et lorsqu'il envisagera peut-être un autre scrutin à venir dont on parle, le référendum.
Un mot peut-être, Edouard Lecerf, du cas Édouard Philippe, populaire aujourd'hui au niveau national, qui se soumet au vote des électeurs au Havre.
Oui, il se soumettait d'ailleurs au vote des électeurs avant d'avoir eu ce regain de popularité, un regain de popularité qui, naturellement, aura sans doute un effet, là, pour le coup, sur les électeurs du Havre, sur un certain nombre d'hésitants, sur ceux qui pouvaient se poser la question de savoir est-ce qu'ils allaient aller voter. C'est un élément qui peut les motiver. Il a aujourd'hui, effectivement, une posture, une position dans l'équilibre de la vie politique française qui est très particulière. Il a, on le notait dans notre dernière enquête, 16 points d'écart entre lui et le président de la République. Ça n'était pas arrivé depuis le début du quinquennat. Cette prééminence, cette capacité à avoir parlé, comme nous disent les Français, de manière très quotidienne, très directe, très simple, parfois un peu rude, parfois un peu souple. Mais en tout cas, ça a plu et ça fait partie de son personnage politique qui se dessine depuis le début du quinquennat et qui prend de plus en plus de consistance.
On surveillera ce que diront les Havrais dimanche prochain. Merci beaucoup Édouard Lecerf.
Merci à vous.
Directeur adjoint de l'Institut BVA. Les résultats de cette enquête BVA pour Europe 1 et La Tribune à retrouver sur europe1.fr. Je vous rappelle cette édition de ce sondage. La ville de Paris avec Anne Hidalgo qui confirme 45% d'intention de vote, Rachida Dati 34% et Agnès Buzyn 18%. Merci Édouard Lecerf. Il est 6h49.
Europe 1 présent sur tous les continents grâce à son réseau de correspondants, la revue de presse internationale.
Le Japon, la Pologne et l'Algérie au programme. À tout de suite.
Europe 1, il est 6h51, vous écoutez Mathieu Béliard et c'est la revue de presse internationale.
Notre réseau de correspondants sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Nous démarrons au Japon, à Tokyo, avec Bernard Delattre. Bonjour Bernard.
Bonjour Mathieu.
Et qu'est-ce qui fait la une au Japon ?
Un sondage paru hier dans le journal Mainichi à propos des JO de Tokyo, qui donc ont été reportés à l'été 2021. Oui, mais les Japonais n'y croient plus. 59% pensent qu'ils ne pourront pas avoir lieu dans un an, car le coronavirus fera toujours des ravages. Dans les coulisses, la décision de principe d'annuler ces Jeux a déjà été prise par le CIO, selon le tabloïd Friday. De toute façon, si ces Jeux ont lieu, il risque d'y avoir un problème, puisque d'après la télé publique NHK, 65% des entreprises qui les sponsorisent pourraient sortir leurs recettes ayant fondu depuis le début de l'épidémie. Ce report d'un an coûterait des milliards d'euros. Ça énerve les quotidiens ici qui veulent qu'on en revienne à des jeux low cost. Mais sur les réseaux sociaux, beaucoup de Japonais demandent qu'on arrête les frais, qu'on annule carrément ces JO. Et c'est ce que réclament aussi plusieurs candidats au poste de gouverneur de Tokyo qui sera élu début juillet.
Bernard Delattre à Tokyo pour Europe 1. Fanny Bouco est en Pologne. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu.
À la une des journaux polonais.
Eh bien, c'est le premier tour de la présidentielle ce dimanche. Alors, pour récompenser la ville qui enregistrera le meilleur score de participation dans chaque région, le ministère de l'Intérieur offrira un camion de pompiers tout neuf. Ce concours s'adresse aux villes de moins de 20 000 habitants, villes qui votent majoritairement pour le PiS, droit et justice au pouvoir. C'est donc faire venir les électeurs aux urnes pour creuser l'écart face à l'opposition qui continue de grimper dans les sondages. L'ancien chef de la commission électorale parle dans Gazeta Wyborcza de cadeaux du pouvoir totalement inappropriés. L'opposition crie au scandale et certains journalistes parlent même de corruption électorale. Mais ce n'est qu'un ajout à une déjà très longue liste de promesses populistes.
Fanny Bouco, en Pologne, pour Europe 1. Nour Chahine à Alger, bonjour Nour.
Bonjour Mathieu.
De quoi est-ce qu'on parle en Algérie ?
Source d'inquiétude pour le gouvernement, la reprise du Hirak pointe à l'horizon, particulièrement en Kabylie, où des marches ont été réprimées par les forces de l'ordre ces derniers jours, indique le quotidien Al-Watan. Des manifestations empêchées à travers plusieurs villes qui ont fait suite à un appel lancé sur les réseaux sociaux. Des centaines de manifestants et des dizaines de policiers se sont affrontés à coups de pierres et de gaz lacrymogènes, raconte Liberté. Les pouvoirs publics ont anticipé la reprise des manifestations en adressant la veille une correspondance aux préfectures pour insister sur l'application rigoureuse des dispositions de lutte contre la crise sanitaire. Dans le même temps, la presse titre sur la reprise des procès des hommes d'affaires accusés de corruption. Des affaires qui traînent depuis plusieurs mois déjà, rappelle le quotidien Al-Khabar, qui s'interroge sur l'instrumentalisation politique de la justice en cette période de troubles.
Nour Chahine, en Algérie. Nous étions, oui, en Algérie, en Pologne et au Japon. Bon, c'était la revue de presse internationale, c'est tous les matins, 7h10 sur Europe 1.
Europe 1. Un nouveau journal à 7h, la météo assure avec Laurent Cabrol sur Europe 1. Europe 1. 6h57 sur Europe 1, Mathieu Béliard.
Lundi 22 juin, bon réveil à toutes et à tous avec la rédaction d'Europe 1. Ensemble, on écoute le monde changer. Tiens, changer le monde, c'est ce qu'on leur a demandé. Les 150 Français tirés au sort ont remis leurs propositions à l'exécutif hier. Ils seront reçus par Emmanuel Macron dans une semaine. 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Manque d'originalité et de courage, nous dira Nicolas Bétou à 7h55 ce matin. C'est aussi au programme de l'interview de Sonia Mabrouk, l'invité de la matinale d'Europe 1 à 8h15. C'est la secrétaire d'État à l'économie, Agnès Pannier-Runacher. Des écoles maternelles aux EHPAD, nouvelle étape du déconfinement aujourd'hui. Les écoles pour tout le monde, on va en parler ce matin. Les EHPAD avec des règles de visite assouplies, soulagement, mais déjà inquiétude avec la vague de chaleur annoncée pour la semaine. Température caniculaire, protocole coronavirus, c'est à la une du journal de 7h notamment. Quel sera, tiens, votre premier film post-confinement? Pendant 3 mois, le cinéma c'était ça.
Alors moi il m'épate.
Oui, le Louis de Funès à la télévision, comme pour les jours fériés. Pendant 3 mois, ça fait long et Netflix, ça ne suffit peut-être pas. Désinfection de la salle, mais parfum de pop-corn quand même. Les cinémas rouvrent leurs portes aujourd'hui. Certains ont même rouvert à minuit une. Reportage à 7h30. 7h40, je reçois Olivier Nakache, réalisateur d'Intouchables, entre autres toute l'industrie qui attend de pouvoir respirer à nouveau à partir d'aujourd'hui. Et à 8h30, nous serons avec Mathieu Charrier, le spécialiste cinéma d'Europe 1. Le 7e art et cette question, est-ce qu'on peut imaginer le cinéma sans baiser de cinéma? Je poserai la question à Olivier Nakache à 7h40. Vous, dites-nous en attendant au 39-21 quel est le premier film que vous irez voir. Vous serez en direct avec nous. 6h59, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Et pour vous parler de cette semaine qui s'annonce véritablement caniculaire, à bien des égards, pourquoi? Parce que pendant 3 jours, nous aurons des températures supérieures à 32-33 et que nous aurons probablement des nuits extrêmement chaudes. Alors, bon, aujourd'hui, ça n'est pas encore très très folichon puisque nous avons encore quelques petites pluies et des passages nuageux sur le sud-ouest, le massif central et les régions de l'est, mais très vite, c'est-à-dire à midi, pratiquement tout le monde sera logé à la même enseigne, c'est-à-dire à l'enseigne ensoleillée. Demain, mardi, ce sera un peu plus chaud, mais surtout mercredi et jeudi, nous atteindrons les 32 à 34 degrés avec des températures qui, d'une manière générale sur la France, dépasseront les 30 degrés pratiquement partout. Et jeudi sera la journée la plus chaude avec 35. Ça ira mieux à partir de samedi. On commencera à souffler.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol. Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer.
Europe 1, il est 7h.